première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Parmi les spécificités de la Biennale, il y a vraiment cette volonté de ne jamais prendre des expositions clés sur porte, d'essayer d'aller vers des auteurs méconnus, parfois inconnus, des photographes émergents, des fonds inexplorés, et de les faire dialoguer aussi avec un lieu.
Neuvième biennale de photographie en Condreau, Marchin au Sogne, août 2019.
Nous avons le plaisir d'accueillir Svetlana Kurejčík qui est parmi nous.
Toutes ces photos sont des photos commandées par le journal pour lequel elle travaille. Et elle photographie des gens simples et aussi les traditions de la Biélorussie, hein, des gens de la campagne, des gens dans l'école. Et on fait chaque fois un focus sur des gens. Là, vous voyez, il y a une famille avec une maman avec six filles. Eh bien, ça, c'était pour le 8 mars, pour la Journée internationale des droits de la femme. Comme c'est une fête très importante là-bas, et c'est un jour férié, ben voilà, il fallait trouver une idée. Et la rédaction, ils ont dit, ah, tiens, on va photographier cette simple femme qui a mis au monde six filles.
C'est tous les gens qui ont écrit dans nos gazettes. Батюшка, вот там религия есть.
Oui, il y a beaucoup de thèmes, évidemment. Des gens tout à fait ordinaires, mais aussi, il y a aussi un curé, des gens qui travaillent à la campagne.
Philippe Herbet, qui l'accompagne, pourra traduire vos questions, si vous en avez.
Et vous, qui êtes en Belgique, avez-vous pris votre appareil photographique?
У тебя есть твой фотоаппарат?
Конечно.
Bien sûr.
Et qu'avez-vous photographié ici?
Svetlana est photographe pour la presse locale en Biélorussie. C'est donc un travail qui est fait pour être publié sous forme de journaux, avec des légendes, avec des informations, le plus souvent locales, en relation avec le folklore, avec des fêtes traditionnelles, avec ce genre de choses. On y sent une petite touche aussi un peu de fierté nationaliste, mais sans aucune agressivité, évidemment, dans cette notion-là. Et aussi beaucoup de douceur. On a trouvé que c'était une façon d'aborder la photo de presse et la photo de proximité assez différente de la nôtre.
Ce type de photographie, alors voilà, c'est ici.
En Belgique?
Da.
Много, где Остенда, море мы фотографировали, много
леш фотографировала. Да, репортаж, да.
Я много путешествую.
Elle voyage beaucoup, elle aime photographier la vie, simplement, les gens. Je crois que c'est ça qui l'importe beaucoup, ce sont les gens et paysages, tout le monde.
Paysages,
et
bien
aussi bien. Les paysages.
Neuvième biennale de photographie en Condreau, Marchin au Sogne, août 2019. Vibrer. Avec Emmanuel de Trèpe, Jackie Le Couturier, Svetlana Kurejčík, Philippe Herbet, Damien Comillan, Damien Dufresne, Colin Gray, Sarah Séné, Marie Sorda, Anne Drexel, Mégane Liquin, Sandrine Chenin. 9e biennale de photographie en Congo, Marchin au sol, août 2019, par Thierry Genicot. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques. Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Petite place de Belgique.
Les Kaliski.
Mon œuvre.
Allez, au cinquième.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Allez, Chansky.
Authentique, me tento, me tento, me tento, stélé.
Le monde invisible.
L'affiche, je pense que vous la connaissez, je pense que vous le savez, elle est Jackie Le Couturier, collaborateur de la Biennale de longue date, et même dès ses origines. Il n'y a pas d'expo de Jackie dans le cadre de la Biennale, mais c'est une forme de clin d'œil aussi à son travail magnifique depuis tellement d'années. C'est une photo réalisée dans un bistrot des Marolles au début des années 70.
C'est lui qui fait l'affiche.
Oui, c'est ça. La mémoire des Marolles, Jackie Le Couturier. Vous vous souvenez les circonstances?
J'étais jeune professeur en 75 et j'avais comme étudiant le fils d'un des responsables du comité de quartier des Marolles. Et je lui ai proposé qu'avec les étudiants, on aille pendant un mois s'imprégner un peu des Marolles et de photographier un petit peu la vie des Marolles. Moi, j'en profitais pour faire des photos personnelles aussi. Et c'était le bistrot où on se retrouvait avec les étudiants pour boire une soupe à midi et boire un verre. Et toute la journée, il y a des gens là, du quartier qui venaient simplement boire leur petit verre, discuter. On mettait une thune dans le jukebox et une petite danse qui commençait à s'animer. Puis deux, trois personnes dansaient. Et voilà, moi je trouvais ça. J'ai une série de photos de gens qui dansent dans ce bistrot des Marolles. On n'a plus cette ambiance de village qu'il y avait là-bas et tout. Chacun se respectait, chacun payait un verre à l'autre. On était les bienvenus, même on pouvait faire des photos sans complexe. Maintenant, c'est plus possible d'aller faire des photos dans ces lieux-là. On est tout de suite mitraillés, on se demandait qu'est-ce que vous me voulez.
Bonne vingtaine d'expositions réparties en 15 lieux, plus exactement.
On n'a fait pas une exposition de ces travaux-là dans les bistrots des Marolles, avec tous les étudiants et le responsable des animations des Marolles. Tous les bistrots exposaient les résultats de cette semaine ou de ce mois de travail.
Outre le catalogue général, il y a deux des photographes qui publient un premier livre à l'occasion de cette biennale, qui sont Nathalie Amand et Damien Comian. Nathalie Amand, vous la connaissez peut-être, elle est originaire du Hainaut, elle a une cinquantaine d'années, elle a un travail en argentique, noir et blanc, à la chambre, très patient, très artisanal, très référencé aussi à la photo de studio du 19e et notamment à la photographie érotique.
On chuchote dans cet endroit, c'est le fond qui rejoint la forme.
Oui, exactement. On a cherché à reconstituer en quelque sorte l'intimité de son atelier ou d'une pièce un peu encombrée, un peu bourgeoise, un peu 19e, parce que Nathalie Amand a un travail très, très référencé, très référentiel, très connoté.
Emmanuel Dautrep.
On sent le goût de la mise en scène, le goût un petit peu des objets de décoration ou d'habillement un peu suranné, un peu les signes bourgeois de la photographie 1900. Et en même temps, avec des hommages à prendre au deuxième, au troisième degré, hommage licencieux, c'est un mot qu'on n'utilise presque plus non plus, érotique, pas pornographique, mais en tout cas des images parfois explicites, qui n'ont pas peur non plus de mettre un pied dans l'obscénité, mais avec toujours une petite touche surréaliste, une petite touche encore une fois de mise en scène dérisoire, mais un fond quand même sombre, hein. Y a quelque chose aussi qui nous parle de la mort, comme souvent quand on parle de la chair et de l'amour, c'est pas loin, du temps qui passe et de la vanité. Il y a des séries d'autoportraits où elle se met en scène, mais elle disparaît plus qu'elle n'apparaît. Il y a un travail de portrait qui est plutôt austère, soit de trois quarts d'eau, soit de face, une espèce de rapport contemplatif au paysage aussi. C'est la première fois, en tout cas, sous cette forme-là, je pense, qu'on envisage de faire vraiment dialoguer tous ces aspects de son travail, et puis avec tout le bric-à-brac à la fois de son imaginaire et de son atelier qu'elle a bien voulu mettre à disposition. Donc en plus avec la moquette, dès qu'on est 8, on est nombreux. C'est vraiment un lieu intime, mais qui nous invite aussi à un rapport intime à l'image.
Elle mélange le nu, le portrait, le paysage, l'autoportrait, la nature morte.
9e biennale de photographie en Condro, Marchin au Sogne. Août 2019. Vibrer.
C'est une des expositions quand même qui montre des nus, et parfois des nus un peu explicites. Je pense qu'il n'y a personne dans l'assistance à qui ça piquera trop les yeux, je ne pense pas. Mais enfin voilà, on s'est aventuré aussi sur le terrain de la vibration sensuelle, c'est le moins qu'on puisse dire, voire érotique. Il y a une expo sous forme de cabinet de curiosité à la Cure, ce sera une des premières qu'on verra, et un livre publié par Yellow Now qui sort à cette occasion-là.
Il y a 2 ans, on n'était pas tout le temps là, parce qu'on travaille quand même pas mal l'été. Moi, j'étais en tournée les week-ends, mais quand même, les fois où on était là, c'était super, parce que il y avait beaucoup de monde, et puis on a l'occasion de voir quand même des connaissances qui passent, ou des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, qui disent « Ah bon ?» Parce qu'on était frères, on venait d'emménager 3 ans avant, et des gens qui nous voyaient là disaient « Vous habitez ici ? C'est pas vrai ?» Enfin, donc ça a fait beaucoup de liens, et...
Mais le choix, si tu veux, des lieux où vont se faire les accrochages, c'est un petit peu laissé... Je pense que ce sont les rencontres, tu vois.
Oui, je crois que c'est l'équipe Jackie, Pierre et Manu qui vont...
Oui.
Qui pensent d'abord
pensent,
à des hameaux,
puis...
comme cette année à Haussogne, et puis après, ils se disent, tiens, quels sont les possibles
qui est libre, qui...
Chez
qui,
nous, on venait ouvre, de, il y a 2 ans, on venait d'avoir la salle qui était finie, on avait dit, ah ben, pourquoi pas. Et en fait, ça s'est bien aussi passé, parce que... Comment vais-je dire ? Même si on vient sortir de chez Linda et Pierre, ils sont dans un leur intérieur. C'est quelque chose de voir défiler
oui,
tout le monde.
C'est quelque chose.
Nous, on avait quand même la grange où on voyait les gens si on avait envie. Enfin, il y avait ce choix. Si on se disait, ouf, là j'en ai trop, là, et on partait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Que là. Mais bon, voilà, mais ça reste c'est un très beau souvenir, on le refera, je pense, parce que cette année, il en a été question, enfin, à demi-mot, et puis on a dit non, petit, pas à chaque fois.
Non, c'est bien.
Ça tourne, c'est pas la chance.
On rentre chez Contretype.
On rentre chez Contretype en quelque sorte. On est d'autant plus chez eux.
Avec une pensée pour Jean-Louis Godefroy.
Toujours. Parce que entrer chez Contretype, c'est aussi entrer un peu chez lui, même si l'institution ne fait pas à l'homme. Mais c'est quand même sa patte, son esprit, son œil qui continue de nous accompagner à travers tout ça. On est aussi chez Contretype parce qu'on est... dans une exposition qui est un choix parmi leurs collections. Renaud Montfourny nous rejoindra seulement demain. Malheureusement, c'est une des expos qu'on verra au Centre culturel. C'est une des expos aussi qui nous invite, et pas qu'un peu, à nous imprégner de musique.
Je pense au rock.
Ah bah oui. Mais au rock au sens large. Parce qu'il y a autour de nous des gens, Louise Bourgeois, elle a son côté rock, Marguerite Duras, elle a son côté rock, Gilbert et Georges, ils ont leur côté rock. Donc c'est la culture au sens large, mais avec ce qui faisait la richesse, la beauté, la spécificité, je trouve, des Inrocuptibles, en tout cas, dans la version grande époque, pionnière, défricheuse, etc. C'est de dire que le rock, c'est pas juste un genre musical, c'est une façon de regarder le monde. On est très heureux de l'accueillir, il a une bonne 50aine d'années. Pour ceux qui connaissent les Inrocuptibles, il a fait partie de l'aventure pionnière, de la fondation, de la grande époque, j'ai envie de dire, fin des années 80, début des années 90. Et aussi, il a contribué beaucoup à l'identité visuelle du magazine à travers des portraits, un vrai travail photographique qui dépasse l'illustration d'interview, qui dépasse le simple travail de commande pour la presse, mais qui est un vrai travail de portraitiste, un vrai travail d'auteur, aussi 6, noir et blanc, argentique, comme on les aime. Enfin, on aime bien les autres aussi, mais bon, il y a une famille là qu'on identifie et qu'on aime bien reconnaître. Robert Wyatt à gauche, Audrey Tautou à droite, qui n'est pas dans l'exposition aux Grandes Dames de Pierre Mossou, mais l'esprit y est. C'était ma grande adolescence, mais ça m'a énormément nourri. Ça m'a ouvert beaucoup de portes et surtout les yeux. Et Renaud Montfourny, dont les images nous entourent, moi c'est presque un rêve de gosse de le rencontrer, de pouvoir le montrer. C'est du noir et blanc, 6-6, argentique, classique, inventif, bien foutu. Et il a vraiment contribué
visuellement, mais c'est même plus que visuellement, c'est pas seulement visuellement, à l'identité de la revue.
Nous sommes dans l'église et le verre, je le vois comme support.
Le verre n'est jamais support parce qu'il est trop noble pour être support. Il y a d'abord le verre et ensuite la matière. Voilà.
Et puis il est serti, semble-t-il, il me renvoie au vitrail.
C'est un travail que j'ai produit avec un maître verrier, je suis moi-même formée au vitrail. Et j'ai été accompagnée parce qu'il s'agissait de photographies sur verre à monter en vitrail, donc c'est un travail très particulier. La pièce de verre principale, à savoir la photographie, elle demandait vraiment à s'emboîter de manière extrêmement précise dans le vitrail, ce qui n'est pas le cas habituellement. Il y a eu tout un travail d'accompagnement. Il m'a fallu réfléchir aux cotes aussi. Ce sont des verres qui sont coupés avec une forme assez précise dans l'encadrement. Voilà, puis il fallait trouver un format aussi. Et comme j'ai travaillé en argentique en 24-36, j'ai respecté le 24-36 dans la présentation des vitraux. Voilà. Qui sont sertis au plomb dans la tradition du vitrail et qui sont ensuite complètement montés. C'est-à-dire qu'il y a aussi un système de montage au niveau des accroches qui a demandé beaucoup de réflexion. Et le vitrail questionne le temps, c'est-à-dire qu'on dit qu'un vitrail ne doit pouvoir tenir 20 ou 30 ans. Ces photographies sur verre posaient la même question dans le rendu. Et donc aujourd'hui, ces vitraux qui sont ici tiennent autant qu'un vitrail classique, c'est-à-dire entre 20 et 30 ans au niveau du support.
Et puis encore une fois, la présentation sous forme de vitrail installe un dialogue particulièrement intéressant dans le cadre de l'église. On aura l'occasion d'en discuter plus avant quand on visitera ton expo, si tu veux bien.
Et que montre-t-il, s'il montre quelque chose ?
Le temps, le rapport au temps, à la beauté, et puis à notre regard sur la lumière. C'est-à-dire que c'est un travail naturel, il n'y a eu aucune intervention de ma part sur la matière, si ce n'est de la regarder évoluer dans le temps, dans une lumière constante, toujours au même endroit, aux mêmes heures, et d'avoir un regard bienveillant et indulgent, je pense, comme on peut l'avoir pour un élément qui va périr. Voilà. Et je l'ai relié dans un texte que j'ai fait pour ce projet à ma lecture de Peter Handke sur l'intranquillité, qui parle aussi de l'intranquillité du regard et donc de la beauté et jusqu'où regarde-t-on. Voilà.
Et comment entendez-vous l'intranquillité ?
Moi, je l'entends comme l'intranquillité, plutôt que la tranquillité. Je crois que là, c'est un travail qui arrête le temps, qui oblige, le verre oblige toujours à se poser, à prendre le temps de regarder, parce qu'il y a une question de reflet. Et je pense que c'est un travail qui mélange autant la tranquillité que l'intranquillité. Parce qu'à mon avis, à mon sens, c'est la même chose. Et je trouve que quand je les regarde d'ici, là, c'est une première pour moi. Et pour eux aussi, il y a vraiment cette double présence. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la présence de quelque chose qui pose, donc qui est infiniment tranquille, et qui, à la fois par la matière même qui est en dégradation, est infiniment intranquille. C'est-à-dire qu'il y a deux mouvements contraires qui sont propres à la vie. Enfin, il me semble que ça parle de la matière humaine.
It wasn't like I was thinking of any photographic project. It was really like me trying to make sense of what happened, you know, because when I saw her, the first image I saw of her was in a hospital bed, and it was a complete shock, do you know what I mean? It was a very, very much a shock, so I kind of feel like almost cowardly getting my camera out and diffusing that shock for myself and started taking pictures of her. And it kind of progressed from there, really. And I had no idea that, you know, that we thought we were saying goodbye to her on that day of me taking the pictures, because we didn't know if she'd survive or not. And then, you know, gradually over time, she survived for 4 years after that incident. And then proved a little bit, but not much, so...
Alors, dites-moi, Emmanuel de Trèpe, nous sommes ici à la ferme de Lettres.
Oui.
Pour voir un travail de...
Colin Gray, photographe britannique, partage son temps, sa vie entre l'Angleterre et l'Écosse, mais il vit en Écosse maintenant, et aussi en partie en Croatie. On ne sait plus quoi dire à propos de la photo britannique. Est-ce qu'on est dans le nouveau documentaire, dans le nouveau documentaire? Je ne sais quelle génération il représente, mais ce n'est pas vraiment un courant, mais il y a une photographie documentaire qui est très riche, très diversifiée, très très belle. Et lui, son travail se concentre depuis au moins 30, si pas 40 ans, sur ses parents. Détournement de l'album de famille. C'est des mises en scène loufoques, absurde, deuxième degré, ils se sont prêtés au jeu. Mais c'était une façon aussi de célébrer un esprit de famille un peu différemment, sortant des attentes et des clichés. C'était un très beau travail qui avait fait pas mal parler de lui il y a une vingtaine d'années. Mais bon, ses parents ont vieilli, sa maman a été malade. Et ici, c'est la deuxième partie qui est plutôt la fin de vie. La maladie, la vieillesse, puis la mort. Ça s'appelle « In sickness and in health ». Donc la maladie et la bonne santé, mais... Voilà, contre vents et marées, et puis la vie comme elle est, beaucoup plus sombre, beaucoup plus triste de par son dénouement, mais très pudique, très émouvante, et voilà, un drôle de rapport à la fois proche et distant. Voilà, c'est des questions universelles, en même temps c'est une histoire singulière, mais c'est vraiment une série bouleversante.
Thank you. I think we will have the occasion to discuss that in the exhibition later. Many thanks. Peut-être pour traduire et à la fois compléter ce que vient de dire Colin, il a travaillé depuis plusieurs dizaines d'années avec ses parents. Peut-être mentionner que certains travaux ont déjà été montrés ici, ils avaient été empruntés au musée de la photographie parce qu'il a commencé avec des mises en scène familiales très absurdes, très décalées, très loufoques, très sympathiques avec ses parents. Et puis effectivement, il les photographie depuis plus ou moins 1980, même avant, parce qu'il a eu son premier appareil à 5 ans, il a déjà commencé à chroniquer la vie familiale. Mais une attaque cérébrale a fortement diminué sa maman, et il a photographié dans la série qu'on montre aujourd'hui la deuxième partie de cette chronique familiale, qui est plutôt la fin de vie, la mort, le deuil, et vous verrez que c'est une série à la fois très, très pudique, très émouvante, très précise et très universelle, et puis ouais, peut-être représentative aussi d'un certain rapport à la photographie documentaire anglaise, qui est très riche, qui est magnifique. Il y avait Sean Davy au même endroit il y a 2 ans, et je pense qu'il y a là une filiation. On se réjouit aussi de partager cette découverte. Idriss Idara est un jeune photographe, auteur, sorti il y a quelques années de Saint-Luc, Liège, qui habite en région namuroise et dont on montre sous forme d'un tirage, dans un jardin et dans une petite cabane, 2 séries, essentiellement une réalisée sur le mode nocturne. Il y a peut-être un côté Edward Hopper dans les lumières paradoxales que vous trouverez dans cette image, très picturale, très figée, un voyage entre chien et loup, au bord des routes, de motel en motel, perdu dans l'anonymat des grandes villes, aux États-Unis, un voyage amoureux aussi en même temps. Il a aussi réalisé une autre série très belle sur ses origines familiales au Maroc. C'est en principe une immersion totale, donc on est censé refermer, je pense, la porte. Donc on est rentré.
Plasticienne, c'est bien, ça englobe plusieurs choses.
Je parlais tantôt de troisième dimension, dans laquelle le spectateur peut se projeter un peu comme un hors-champ. Et je fais pareil ici dans les bois. Quand je parle de hors-champ, c'est tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est une troisième dimension, c'est un hors-champ. Le spectateur, de par son imagination, qui doit s'inclure dans l'œuvre. Quand j'utilise le paysage, c'est plus une traduction du souvenir de tous ces instants que je traduis. C'est pas le paysage en tant que tel. Ces petites choses qui font le paysage. Traduction d'instants captés.
Mégane Liquin est présente parmi nous.
Moi, c'est le support que j'utilise, mais c'est pas vraiment un support, ça devient la matière dans laquelle j'intègre le dessin, mais qui se mêle vraiment au dessin, ça devient le dessin à part entière. C'est vraiment un mixte. Je me sers des strates et des différentes irrégularités du bois pour venir dessiner dans le bois. Mais au départ, oui, c'est le support, c'est le bois.
Qui amène à la contemplation, à la méditation, qui montre aussi la frontière poreuse entre dessin, peinture et photographie. Effectivement, les choses que tu montres sont plutôt de l'ordre de la technique mixte. Et peut-être préciser, parce qu'elle ne le dira pas elle-même, que Mégane est probablement une des jeunes artistes, pas seulement photographe, mais artiste au sens plus large, les plus en vue en région utoise et liégeoise. Plusieurs prix, plusieurs expos ces derniers temps. Une trajectoire vraiment remarquable, tout en gardant un rapport très humble à sa pratique, à sa technique. Vous verrez un accrochage minimaliste, mais un travail qui vaut la peine qu'on s'y penche. Babs de Creuillenard, c'est une jeune artiste flamande qui sera montrée chez Pierre Mossou. C'est en partie un hasard, en partie pas, puisque ça fait partie de cette autre dimension de la Biennale. Outre le rapport à la musique, il y a peut-être des liens renforcés, enrichis, avec d'autres moyens d'expression. Il y a les dessins de Damien, mais il y a aussi de la peinture, du dessin, des techniques mixtes. Babs de Creuillenard est plutôt une artiste plasticienne utilisant la photographie qu'une photographe à proprement parler. Même si ce qu'elle montre chez Pierre Mossou, c'est des photogrammes, mais c'est des photogrammes, vous le verrez, très minimalistes, très picturaux, et c'est quelqu'un qui part dans son rapport à la photographie d'objets trouvés. C'est quelqu'un qui glane, qui compile, qui collectionne des petits souvenirs, des petits objets, des choses rencontrées en chemin, et qui servent de base à des compositions souvent un peu symbolistes ou minimalistes. Dans le même endroit, pas tout à fait un hasard non plus, une artiste pas flamande, française, mais installée en Flandre, elle aussi. Exposition réalisée en collaboration avec la galerie 51 à Anvers, Art Pays du Bois, qui a tenu pendant une dizaine d'années un blog où elle s'était donnée comme contrainte, en quelque sorte, de produire une image photographique par jour et de l'accompagner d'une déclinaison autre, c'est-à-dire là aussi dessin, peinture ou parfois quelques mots, une note, une réflexion, une phrase, et le plus souvent un mélange des trois sous forme de diaporama. La totalité de ce blog sera montrée, ainsi que quelques images produites, accrochées au mur. Christian Cadet en est un, photographe amateur éclairé des années 70 jusqu'au début des années 80. Il s'est arrêté presque du jour au lendemain dans la région de Trau. Et il a photographié notamment la vie sociale de proximité avec beaucoup de tendresse. Et vous verrez qu'il y a des couples dans les bistrots qui sont à travers les époques aussi un clin d'œil à l'affiche de Jackie. Mais aussi d'autres choses, pour le dire vite, les tout nus, entre guillemets, dans la foulée du mouvement hippie, beatnik, flower power de la fin des années 60, qui se retrouvaient dans le sud de la France, Ardèche, au bord des rivières, etc. Et puis des dimensions expérimentales, et sans le vouloir ou en le cherchant, malgré tout, il a tenu une espèce de chronique de proximité de cette vie sociale qui l'entourait. Et c'est un travail qui mérite, je crois, d'être découvert. Chez Linda et Philippe, nous verrons l'exposition aussi lors du parcours de tout à l'heure.
Osogne, O2SOGNE.
À combien de kilomètres de marche?
8 kilomètres.
Et pourquoi ce village ?
C'est aussi croiser des publics et des territoires. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure parfois des gens qui s'arrêtent au seuil d'une province ou bien des esprits qui ont l'impression d'être différents, un peu plus au nord, un peu plus au sud. Ça fait se rencontrer des gens, des publics, des populations qui effectivement se côtoient pas toujours. Et puis il y a aussi quand même la dimension de la qualité patrimoniale et du charme du village en soi. Haussogne, c'est un mot.
Ça, c'est un des plus beaux villages du coin.
Ouais, sur lequel on a flashé déjà depuis un moment, qui a déjà fait partie, mais juste le moulin d'une biennale précédente, d'un parcours précédent. Donc il y a différents éléments à ça. C'est vrai que ça permet des collaborations qui amènent un peu de confort. Mais il y a aussi un petit peu d'autre chose.
Et une question que je me pose, pourquoi les habitants, ces habitants-là et pas d'autres, ouvrent leurs portes pour cette biennale? Comment se passent les choses? Ils viennent à vous ou vous allez à eux?
Il y a les deux. Ici, par exemple, pour l'exposition de Sarah Séné, c'est eux qui nous ont dit, voilà, on a une maison qu'on est en train de restaurer, ça nous ferait plaisir si vous pouvez en disposer pour la biennale. Il y a le moulin où il y a une exposition. Ils avaient déjà été demandeurs pour une des précédentes éditions. Donc là, on n'a eu aucun problème. Bon, maintenant, les manœuvres d'approche, l'église.
Jackie le Couturier.
C'est un comité qui s'en occupe, c'est assez facile. Les fermes, c'est déjà des endroits un peu plus privés. C'est un village qui est quand même des petites rues assez étroites et tout. C'est la période des moissons, c'est la période de plein rendement pour eux. À partir du moment où on leur explique que c'est la 9e édition, qu'on a déjà solutionné tout ce genre de problèmes et tout, qu'on essaye que les gens respectent les endroits de parking, qui respectent les lieux, que s'ils visitent la ferme, ils respectent l'environnement. On parvient toujours à les convaincre. Et puis, je pense que ça leur fait plaisir aussi de participer à une autre aventure que simplement leur métier, faire découvrir leur métier. Je me rappelle l'année passée, le fermier qui... Il est resté tous les samedis, tous les dimanches à accueillir les gens, à leur expliquer la manière dont il élevait ses veaux, ses génisses, comment il cultivait et tout. C'était passionnant. Ça fait partie d'un des objectifs de la biennale. C'est pas simplement montrer des artistes et des photographes, c'est aussi faire découvrir une région et découvrir des gens qui habitent une région. Voilà.
Une démarche ambulatoire parce que dans le travail il y a la marche est vachement importante pour moi, engagement dans ce qui vit, engagement dans le monde. On sait qu'il y a énormément de corps dans le paysage, il y a des bêtes un peu mystiques.
Damien Coumian, on parlait de photographe émergent, il a à peine plus de 30 ans, il publie à l'occasion de la biennale son premier livre, j'espère n'oublier personne en cours de route, mais il fait partie des photographes qui sont présents parmi nous.
Voilà, c'est un travail qui a évolué sur de longues années et qui n'est probablement toujours pas fini, même si je fais d'autres choses en parallèle.
Damien, si tu veux dire un petit mot du travail que tu présentes, très rapidement.
invitée à Bruxelles pour donner une conférence à Recyclard. On ne se connaissait pas, donc je me suis rendue à la conférence pour rencontrer Damien parce que je connaissais son travail et que j'avais envie de faire sa connaissance. Et le soir même, on avait chacun un mail dans notre boîte mail nous disant qu'on avait une proposition d'exposition ensemble à Berlin. Et donc on l'a accepté, on s'est dit que c'était un magnifique hasard.
Sans savoir que vous vous rencontriez.
Non, pas du tout. Même. Non, pas du tout. Donc on s'est dit là, ça fait beaucoup de signes du destin. Et on est parti justement sur l'idée de profiter de ce petit coup de pouce du destin pour vraiment, comme nos travaux résonnaient très très bien, pour se lancer dans cette espèce d'aventure très mixte, très mélangée, où on a vraiment décidé, comme il expliquait, de faire un ping-pong. Donc j'ai envoyé une première photo, je crois que c'est moi la première. Et pendant 2 mois, chaque jour, on s'est envoyé une image qui se répondait. Et de ça, on a tiré le mot rumeur. On avait envie d'un sentiment qui se répand comme ça, de quelque chose comme un écho léger, de diffus.
Oui, et puis de la façon dont aussi une parole peut se transformer quand elle est répétée, répondue, comme l'écho déforme un petit peu les choses. Et voilà. Que, en fait, la première photo que Marie a envoyée, je l'ai peut-être interprétée d'une manière qui n'était pas du tout celle que les intentions qu'elle avait mis dedans, et j'ai essayé d'y répondre en étant le plus sincère possible.
Damien Dauphren, qui aura une exposition en duo avec Marie Sorda, il est présent aussi, photographe français installé à Berlin.
On est parti sur l'idée de conserver notre ping-pong, qui au début était peut-être juste un outil de travail, et on le présente ici comme on l'avait présenté à Berlin, donc avec des petits tirages très légers qui se suivent les uns les autres. Donc vous avez vraiment la correspondance de nos 50 photos, comme un peu une sorte d'atelier hein, qu'on a mis en place. Et puis au mur, les tirages, on va dire, finaux de ces travaux-là, qui sont aussi tout à fait mélangés. Donc assez impossible, je pense, quand on ne connaît pas bien nos travaux, de savoir quoi est acquis. Et c'est vraiment l'idée qui...
Ça fait partie du jeu.
Voilà, on a tout jusqu'au
bout. Sauf que les dessins sont de Damien.
Sauf que les dessins sont absolument de Damien.
Après, ce qu'on peut aussi peut-être ajouter, c'est que chacun d'entre nous, on a été piocher des images dans nos archives, dans notre travail. On n'a pas fait les photos pour ce projet. Oui, on avait une durée de travail assez courte.
Et merci en tout cas de votre confiance, puisque encore une fois, vous avez laissé à peu près les mains libres et carte blanche, avec quand même un œil attentif de Marie, pour recomposer une nouvelle forme dans un lieu qui est beaucoup plus petit, mais où le dialogue de vos images et aussi du moulin de Sogne et de l'obscurité fonctionne magnifiquement. On le verra tout à l'heure.
Et puis on fait un gros travail de rénovation, spécialement pour l'exposition. Donc là, ils ont travaillé beaucoup.
D'arrache-pied.
Ouais. Voilà. Merci.
Allez-y. Et ils viennent de finir la porte.
Voilà. Alors moi je vous invite plutôt de ce côté, si vous voulez, mais ça n'a pas vraiment de sens.
Sarah Séné est parmi nous aussi, jeune photographe française installée à Montréal.
Je vais découvrir, c'est un projet qui s'appelle Fauvea. Bon, alors c'est un projet qui a été et qui est encore réalisé au Canada. Au Québec plus précisément, autour de Montréal, mais ailleurs dans les régions avoisinantes. C'est un projet qui s'appelle Fovea. La Fovea est une zone à l'intérieur de l'œil où se trouve la netteté la plus précise qu'on peut tous avoir en fait dans notre œil. C'est un mot latin que je trouvais très doux et qui correspondait vraiment au portrait que je voulais faire de ces jeunes qui sont donc des jeunes malvoyants et aveugles, qui ont tous différents types de déficiences visuelles. Ça peut être des maladies dégénératives, des accidents, un cancer qui a écrasé dans le cerveau un nerf optique, un accident de voiture. Et puis vous allez voir aussi, il y a plusieurs albinos en fait. Moi j'aime pas trop les appeler les albinos, mais en tout cas ce sont des jeunes atteints d'albinisme oculo-cutané. On ne sait pas toujours, mais souvent quand on a une dépigmentation très forte. Ça vous dérange de vous mettre juste à côté de moi, excusez-moi, parce que sinon je vois pas les gens. Merci. Donc quand ces personnes ont une dépigmentation très forte au niveau de la peau, des cheveux, ils l'ont aussi au niveau des yeux, de l'iris. Et les yeux sont très, très, très sensibles à la lumière, mais il y a aussi une détérioration de la vision au fur et à mesure du temps. Par exemple, la jeune fille que vous pouvez voir là-bas, Marlène, qui a 15 ans, elle ne perçoit pas la 3D, elle ne perçoit pas véritablement le mouvement. Ce qu'elle m'expliquait dès le départ, c'est que si quelqu'un est en face d'elle et lui fait coucou, elle peut penser qu'on fait juste stop, arrête-toi. Puis elle m'expliquait que quand elle avait 14 ans, un beau matin, elle s'est levée, et puis il y avait ce miroir en pied dans lequel elle avait l'habitude de se regarder. Puis là, un matin, elle s'est réveillée, puis dans son champ de vision, elle ne percevait plus en dessous des genoux, en fait. Donc le champ de vision s'était rétréci. Il y a des jeunes comme Dominique qui sont atteints de cataracte et de glaucome dès le plus jeune âge. Voilà, on a vraiment, je ne vais pas vous raconter tout, vous avez en plus les petits descriptifs, mais ça vous donne une idée un petit peu des déficiences visuelles. Puis surtout, ce que je disais ce matin à la conférence de presse, c'est que c'est un travail au long cours, ça fait déjà 2 ans et demi que je suis dessus. Et puis ces jeunes, je ne les ai pas tous rencontrés d'un coup, c'est vraiment au fur et à mesure. Le tout premier que j'ai photographié, c'est le jeune homme dans la piscine, Alex, qui nage malgré sa perte de vision centrale. Donc lui, par contre, il ne se dirige pour le moment qu'avec le champ de vision, en fait, la vision périphérique. Et de fil en aiguille, en fait, il m'a parlé d'un ami, d'une amie, puis les réseaux sociaux qu'ils utilisent beaucoup grâce à des lectures vocales. En fait, il y a plein d'outils aujourd'hui qui leur permettent de communiquer, c'est fou. Et notamment avec moi, quand je les contacte et leur propose de participer au projet. En fait. Donc, ils choisissent eux-mêmes les lieux. À chaque fois, sur le descriptif, vous avez donc photographié en telle date, dans tel lieu, en fait. Et c'est souvent, finalement, la chambre, leur chambre qu'ils choisissent, c'est leur bulle. C'est là où ils se sentent vraiment bien, confortables, et c'est l'intime. Et puis moi, c'est vrai que c'est souvent des projets très intimes et poétiques. Voilà. Il y a d'autres descriptions sur la fenêtre aussi, si vous voulez vous servir. Vous pouvez être curieux d'en savoir plus.
9e Biennale de photographie en Condro, Marchin, Haussagne. Août 2019. Vibrer. Avec Emmanuel Dautrep.
Alors le fond de Sarcy Robbins, c'est une nouvelle collaboration, une nouvelle aventure un peu particulière. Anne Drexel est parmi nous au Musée de la Vie Wallonne. Elle a vraiment été la cheville ouvrière de cette exposition. La commissaire, la relance, j'ai envie de dire, aussi énergique et bienveillante par rapport à cette institution muséale qu'elle a secouée pour qu'on arrive à une exposition dans les délais qu'on lui a impartis et qui étaient évidemment intenables.
Il s'agit d'un fonds de photographie de presse. Donc en fait, c'est le fonds de Sarcy Robbins qui est conservé au Musée de la Vie Wallonne. Et ce sont des photographies qui ont été prises entre les années 1930 et la fin des années 1980. Et donc, c'est un énorme fonds. Il y a des milliers de photographies qui ne sont pas encore inventoriées, qui ne sont pas... on ne connaît pas toutes les photos que l'on a encore. Et là, on a fait une sélection dans le cadre de la Biennale de toute une série de photos qui nous faisaient vibrer. Donc ça peut être des petits événements plus intimes, comme des événements beaucoup plus importants, que ce soit les grèves qu'on voit là, les grèves des femmes de l'AFN notamment, ou des faits plus anecdotiques.
Avec Emmanuel Dautrep, Jackie Le Couturier, Svetlana Koritschek, Philippe Herbert, Damien Comillan, Damien Dufresne, Colin Gray, Sarah Séné, Marie Sorda, Anne Drexel.
Une photographie qui se trouve de ce côté, ce sont des enfants qui sont sur la route et qui courent. Je trouve qu'il y a une très grande spontanéité dans cette photographie. Je l'aime beaucoup. On ne connaît pas l'histoire, on ne sait pas grand-chose de la photographie, si ce n'est que ce sont des enfants qui étaient dans un orphelinat ou une sorte de home pour enfants. Mais je trouve qu'il y a énormément d'émotion et d'expression sur les visages. C'est quelque chose qui m'a moi-même fait beaucoup vibrer. Anne Drexel. Et je suis responsable des collections photographiques et sonores au Musée de la Vie Wallonne.
Donc merci beaucoup Anne. Un petit mot sur De Sarcy, ce fonds.
Le Musée de la Vie Wallonne, c'est un musée qui se situe à Liège. En fait, c'est un musée de société qui est situé cours des mineurs à Liège. On a de nombreux enregistrements. Dans notre musée, des enquêtes ethnographiques ont été réalisées. Et nous possédons des enregistrements de témoignages, des personnes qui ont expliqué leur métier, des métiers qui ont disparu parfois aujourd'hui, parfois pas. On a également pas mal de documents sonores, que ce soit des chansons, de la musique, généralement en Wallonie, puisque nous collectons principalement des éléments de Wallonie, des pièces de théâtre de marionnettes, des pièces de théâtre en wallon. Donc ça brasse assez large aussi, et c'est un fonds qui n'a pas encore... Enfin, je viens de terminer de le faire numériser. Donc on est petit à petit en train de découvrir presque ce que nous avons dans nos archives.
Jeff Vandenbosch, tout jeune photographe, encore étudiant, je crois, au casque, à Gand. C'est un travail que tu as commencé il y a un an ou deux déjà. On a soif. Série sur les Volkscafé, comme ça, voilà, tu as dit ton mot en français, j'ai dit mon mot en néerlandais. Sur les cafés populaires, essentiellement en Flandre au début, mais je crois que maintenant tu commences à prolonger. Spreek een beetje Frans? Kun je een paar woorden zeggen in het Frans? C'est de la photo documentaire qui va dans le détail, mais c'est aussi un petit peu composé comme un vaste tableau à la flamande, truculent, plein de détails assez étonnants. Et on joue aussi du contraste entre ces images plutôt intimistes, forcément en huis clos, dans les bistrots, et puis le grand format en plein air ou dans la grange à Haussogne. Drôle d'hybride aussi entre photographie et peinture, peut-être inattendu. Henri Evenepoel n'est pas présent parmi nous pour cause de décès, et il y a bien longtemps de cela, à un âge malheureusement, il est mort à 27 ans à peine, après une carrière fulgurante, une production abondante. C'était quelqu'un qui était plein d'énergie, dont on connaît le travail pictural très certainement, mais qui à la fin des années 1890, peu de temps avant sa mort, les 2-3 dernières années, a abondamment photographié la vie de famille avec un petit pocket Kodak qui figurait parmi les premiers appareils amateurs dans les années 1890. C'était des documents, c'était des images produites sans volonté esthétique ou artistique, mais en même temps il y a des liens évidents avec sa peinture qu'on ne peut montrer que sous forme de rapport à quelques objets qu'on présente en vitrine, mais en même temps la qualité photographique de ce travail et aussi sa richesse et sa rareté en tant que document nous ont paru mériter une exposition à part entière, et ce sont des tirages empruntés, des tirages d'époque, pas d'époque fin 1890, mais en tout cas d'il y a une cinquantaine d'années, empruntés à Laurent Busine.
Vibrer, 9e Biennale de photographie en Condroux, Marchin au Somme, août 2019, par Thierry Genicot. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques. Thank you.
Thank you.